Ce message vous est proposé gratuitement.
Gratuitement.
Et en intégralité par le ministère Enseigne-moi. Sa diffusion est rendue possible grâce aux généreux dons des internautes comme vous. Nous vous souhaitons une agréable écoute sur enseignemoi.com, le site partenaire des églises locales.
On va continuer dans le psaume 119. Il nous reste exactement 3 fois à méditer sur ce psaume. Je vous rappelle que c'est un psaume qui élève vraiment la parole de Dieu, un hymne à la parole de Dieu. Et je vous rappelle aussi que c'est un psaume de l'Ancien Testament. Donc, ceux qui ont écrit cela ne sont pas nés de nouveau. Et on voit qu'il y a, au travers de ces différents passages, une soif extraordinaire pour Dieu et sa parole, mais qu'il y a aussi parfois certaines incompréhensions par rapport à qui est Dieu, par rapport à ce que il va faire et comment il voit l'homme. Parce que on doit comprendre une chose, c'est que ceux qui étaient sous l'Ancien Testament n'avaient pas la position que nous avons en Jésus-Christ. Dieu a fait de nous des rois et des sacrificateurs afin que nous régnions au-dessus de toutes choses. Amen. Il nous voit comme ses fils et comme ses filles, non pas comme des mendiants, non pas comme des renégats, des moins que rien, mais il nous voit comme il voit Jésus. Et on doit toujours le comprendre quand on lit la parole de Dieu. Et si je vous fais ce genre de recommandation, c'est parce que le texte que nous allons lire est typique. Il est typique à propos de l'ancienne alliance en contradiction avec la nouvelle alliance. Quand je dis en contradiction, bien sûr, c'est dans la mesure où nous sommes dans un niveau bien plus élevé. Non pas que l'ancienne alliance était mauvaise, parce qu'elle était parfaite pour des inconvertis, pour des personnes qui n'avaient pas la nature de Christ en eux. Mais pour nous, nous vivons dans une autre dimension. Et j'aimerais qu'on puisse lire ce texte, parce qu'il y a vraiment des choses qui sont intéressantes par rapport à nous-mêmes, par rapport à la façon dont nous nous voyons nous-mêmes et la façon dont nous voyons Dieu et nous percevons Dieu. Lisons ensemble donc dans le psaume 119, versets 153 à 160. Vois ma misère et délivre-moi, car je n'oublie point ta loi. Défends ma cause et rachète-moi. Rends-moi la vie selon ta promesse. Le salut est loin des méchants, car ils ne recherchent pas tes statuts. Tes compassions sont grandes, ô Éternel. Rends-moi la vie selon tes jugements. Mes persécuteurs et mes adversaires sont nombreux. Je ne m'écarte point de tes préceptes. Je vois avec dégoût des traîtres qui n'observent pas ta parole. Considère que j'aime tes ordonnances. Éternel, rends-moi la vie selon ta bonté. Le fondement de ta parole est la vérité, et toutes les lois de ta justice sont éternelles. Amen. Comment est-ce que nous pouvons aborder ce passage, nous qui sommes nés de nouveau? La première chose, il dit, vois ma misère et délivre-moi, car je n'oublie pas ta loi. Il dit, Seigneur, aie pitié de moi. En gros, c'est ce qu'il est en train de dire. Vois ma misère et délivre-moi. On voit cela aussi, ce genre d'attitude dans les évangiles, et on peut voir ce genre d'attitude parmi les personnes qui ne sont pas converties et qui ont besoin de Christ. Et là, c'est la bonne attitude. Je vous rappelle que quand on lit les évangiles, personne n'était né de nouveau à cette époque, puisque la nouvelle naissance vient par la résurrection de Jésus. Donc, par exemple, on voit ce passage qui est vraiment marquant dans Marc chapitre 1, verset 40. Un lépreux vint à lui et se jetant à genoux, lui dit d'un ton suppliant, si tu le veux, tu peux me rendre pur. On voit l'homme qui s'approche de Dieu avec un ton suppliant, qui crie à Dieu parce qu'il est vraiment dans des problèmes terribles. Et effectivement, cet homme était lépreux. Et on voit la réponse de Jésus au verset 41. Jésus, ému de compassion, étendit la main, le toucha et dit, je le veux, sois pur. Aussitôt, la lèpre le quitta et il fut purifié. On voit ce même genre d'attitude dans Luc chapitre 18, verset 38, c'est l'histoire de Bartimée, cet aveugle qui est sur le bord du chemin. Il entend que Jésus est en train de passer et il va crier, verset 38, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Ceux qui marchaient devant le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort, fils de David, aie pitié de moi. Ça, c'est l'attitude d'un homme qui n'est pas né de nouveau. Et si tu es ici et que tu n'es pas né de nouveau, tu peux crier à Dieu de cette manière-là. Aie pitié de moi, je suis un homme pécheur, je vais mourir, je vais en enfer, aie pitié de moi. Vraiment, dans les temps de réveil, on voit les inconvertis qui supplient Dieu de les sauver, qui tombent par terre comme des arbres que l'on coupe. Vous savez, quand on coupe un gros arbre, au moment où il est arrivé un point où la coupure est profonde, l'arbre, il s'abat comme ça sur le sol. Dans les temps de réveil, les inconvertis, les païens, sont tellement sous une conviction de péché qu'ils crient à Dieu et disent « Aie pitié de moi !» Parce qu'ils se rendent compte dans quel état ils sont. Ils se rendent compte, ils réalisent le poids de leur péché, ils réalisent leur indignité et ils réalisent aussi qu'ils vont en enfer. Aujourd'hui, on est plutôt obligé de supplier les gens de venir au Seigneur. « Oh, viens Jésus, s'il te plaît, je t'en prie, je t'en supplie, viens Jésus. » Mais dans la réalité, c'est le contraire qui devrait se passer. Amen, amen. Donc, qu'un inconverti crie à Dieu, qu'un inconverti supplie Dieu, c'est tout à fait normal. Mais vous et moi, on n'a pas à supplier Dieu. Parce que nous sommes ses enfants. Lisons ensemble dans Jean chapitre 1, verset 12. « Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. » Nous sommes des enfants de Dieu. Et bien sûr, un enfant, lorsqu'il est tout petit, un bébé, il ne sait pas vraiment qui il est. Et il peut crier comme cela parce que c'est un bébé. Mais l'enfant, en grandissant, comprend sa position dans la famille. Il sait qu'il est le fils, il sait qu'il est l'héritier. Et quand il devient vraiment adulte, il sait que tout ce qui est dans la maison lui appartient. Parce que ça lui a été donné, cela a été mis à sa disposition par le Père. Ce sont seulement les mauvais parents qui ne permettent pas à leurs enfants d'utiliser ce qui leur appartient. Mais quand tu as un fils dans lequel tu as confiance, tout ce qui est à toi, il le prend, il n'a pas besoin même de demander la permission. Amen. Et ce que j'aimerais que vous compreniez ce matin, c'est ce que nous sommes en Christ. C'est ce que nous sommes en Christ. Arrêtez de supplier Dieu. Seigneur, aie pitié de moi. Seigneur, je suis dans la distresse, je t'en supplie, viens à mon secours. Mais dis plutôt, Seigneur, tu es mon secours, je suis ton enfant. J'ai ton nom, j'ai ta parole, j'ai ton autorité, je sais qui je suis, ton fils. Tu m'as adopté, tu m'as transféré dans le royaume de ta lumière. Je ne suis plus dans l'ancien royaume. Tu m'as rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints. M'a rendu capable. Avant, tu n'étais pas capable. C'est lui qui t'a rendu capable. Donc, si c'est lui qui t'a rendu capable, ça veut dire que tu es capable. Si c'est nous qui devons nous rendre capables, je vous assure que nous avons beaucoup de soucis à nous faire. Parce que tous nos efforts ne suffiront jamais à nous rendre capables. Dieu t'a rendu capable. Marche dans cette capacité. Il a fait de toi son fils. Marche dans cette position. Il t'a ressuscité avec Christ, comme le dit Éphésiens. Il t'a ressuscité avec Christ et il t'a fait asseoir avec Christ. Éphésiens chapitre 2. Il t'a fait asseoir avec Christ. Tu es assis avec Christ. Bien sûr, c'est pas une chose qui est visible. C'est pas une chose que nous pouvons voir avec nos yeux, mais c'est une réalité spirituelle. Et les choses spirituelles, excusez-moi de vous le dire, mais elles sont bien plus puissantes et bien plus véritables que les choses visibles. Avec nos yeux, nous voyons continuellement des choses. Avec nos oreilles, nous entendons continuellement des choses. Et je vous garantis que ce que nous voyons avec nos yeux, ce que nous entendons avec nos oreilles, est loin d'être toute la vérité et toute la réalité. Combien de fois, même plusieurs fois dans la journée, on voit des choses et on se rend compte qu'on s'est trompé. On entend des choses et on se rend compte que ce n'est pas vrai. On pense des choses et on voit après quelque temps qu'on est complètement à côté, qu'on est dans l'erreur, qu'on a mal évalué, mal jugé. Mais ce qui est spirituel est vrai, est puissant. Il n'a pas à être jugé, cela a à être reçu. Tu peux perdre ton temps à juger les choses spirituelles et pendant que tu es en train de les juger, je t'assure que tu n'es pas en train de rentrer dedans. Mais quand tu les reçois et quand tu commences à fonctionner avec, tu as le droit de le faire. Sache-le. Tu as le droit de fonctionner dans ces choses et quand tu commences à le faire, tu vois du résultat. Tu vois la gloire de Dieu. Pourquoi ? Parce que Dieu est derrière sa parole. Il veille sur sa parole afin de l'exécuter. Donc aujourd'hui, dans le temps dans lequel nous vivons, quand nous sommes nés de nouveau, on n'a pas besoin de dire à Dieu « aie pitié de moi ». C'est carrément quand on dit à Dieu « aie pitié de moi », on est en train de l'offenser. On est en train de l'offenser. Imaginez une bonne famille, parce que je sais que toutes les familles ne sont pas bonnes, mais une bonne famille, un bon père, une bonne mère, et qui a tout mis à la disposition de ses enfants, et que l'enfant dise à son père, « Papa, aie pitié de moi, je t'en supplie, achète-moi un nouvel uniforme pour aller à l'école, celui-là, vraiment, je ne peux pas le garder plus longtemps. » Et le père va regarder son enfant en lui disant, « Mais quel est ton problème ? Les nouveaux uniformes, ils sont dans ton armoire, avant même le jour de la rentrée scolaire, pourquoi tu continues à mettre le vieux qui est tout déchiré ? Et pourquoi en plus tu me demandes d'avoir pitié de toi ? Un père pourrait même se fâcher quand il a déjà tout donné, pourvu à toute chose, que l'enfant marche avec les vieilles choses. Regarde, papa, mes chaussures sont trouées. Mais quel est ton problème ? Il y en a une paire toute neuve sur l'étagère, tu n'as qu'à les mettre. C'est comme ça que Dieu voit les choses pour toi et pour moi qui sommes nés de nouveau. Arrêtez de demander à Dieu des choses qu'il vous a données, déjà données, depuis longtemps. Arrêtez de demander à Dieu d'avoir pitié de vous parce qu'il n'a pas pitié de vous. Quand vous demandez à Dieu d'avoir pitié de vous, vous lui demandez une chose qu'il ne peut pas faire. Il ne peut pas avoir pitié de toi parce qu'il a fait de toi son enfant. Il t'a tout donné en Jésus-Christ. Et je vous assure que la pitié, ça nous rabaisse. Moi, je n'aime pas qu'on ait pitié de moi. Personne n'a pitié de moi et je ne veux pas que qui que ce soit ait pitié de moi. Quand on voit des personnes parfois dans la rue, des gens qui sont complètement désespérés, on a pitié d'eux. Des gens qui sont sales, qui ont des vêtements sales ou pas de vêtements ou peu de vêtements, on a pitié d'eux. Des gens qui sont extrêmement malades, qui ont parfois des handicaps horribles, on a pitié d'eux. On a pitié d'eux, parce que ce que l'on voit inspire la pitié. Donc si tu commences à inspirer la pitié aux autres, mon Dieu, moi je préfère inspirer la gloire. Je préfère inspirer chez les autres le désir de voir dans leur vie les mêmes choses que j'ai dans la mienne. J'ai le désir d'inspirer le respect. Voilà le désir que j'ai, mais certainement pas d'inspirer la pitié ni des hommes, et surtout pas de Dieu, parce que Dieu n'a pas pitié de moi et n'aura jamais pitié de moi de toute façon. Vous savez, quand on essaye de rechercher la pitié de Dieu, on s'abaisse, et pas de la bonne façon. Ça n'a rien à voir avec l'humilité. La vraie humilité, c'est reconnaître ce que je suis, Dieu l'a fait. Et tout ce que j'ai, c'est lui qui me l'a donné. Je lui dois tout. Ça, c'est la vraie humilité. Mais essayer d'inspirer la pitié, c'est un manque de compréhension de qui est Dieu, de ce que nous sommes, de ce que dit sa parole. C'est vivre complètement à côté. C'est vivre dans une dimension qui n'est pas celle à laquelle Dieu nous appelle à vivre. Il continue au verset 154 et dit « Défends ma cause et rachète-moi. Rends-moi la vie selon ta promesse. » Et moi je dis « Alléluia !» Dieu a entendu cette prière il y a bien des centaines et des milliers d'années apparemment. Et même avant que les gens prient comme ça, il avait déjà préparé. Amen. Il avait déjà préparé. Il a défendu notre cause. Amen. Parce que notre cause, c'était notre destination. C'était l'enfer. Et Dieu est intervenu par rapport à ces choses en donnant son Fils Jésus. Il nous a déjà rachetés. Alléluia. Celui qui a écrit cela, il n'était pas racheté. Toi, tu as été racheté. Tu as été racheté par le sang de Jésus. Il n'y a rien de plus grand, il n'y a rien de plus pur, il n'y a rien de plus puissant, il n'y a rien de plus précieux que le sang de Jésus. Et c'est avec le sang de Jésus que tu as été racheté. Tu n'as plus besoin d'être racheté parce que tu as déjà été racheté et tu as déjà la vie. Il prie, dit, rends-moi la vie. La vie, tu l'as. Jean chapitre 10, verset 10 nous dit, je suis venu pour que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait avec abondance. Il nous a donné la vie éternelle. Il nous a donné le Saint-Esprit qui nous communique la vie. Et ce sont des choses qui sont à nous et qui nous appartiennent. Et si un jour ou l'autre, tu te sens desséché dans ta vie spirituelle, si tu ne te sens pas à l'aise, si tu as l'impression que tu ne portes pas des fruits ou que tu es sec, eh bien, il y a une chose à faire. Viens puiser dans sa vie. Parce que c'est la seule chose qu'il y a à faire. Amen. Vous savez, les hommes souvent sont soit en manque de compréhension ou soit ils sont feignants. Seigneur, rends-moi la vie. Seigneur, remplis-moi. Seigneur, fais ceci. Seigneur, fais cela. Et c'est bien de demander au Saint-Esprit de nous remplir. Mais si tu veux que le Saint-Esprit te remplisse, tu dois aussi boire à cette source. Si tu ne bois pas, tu vas rester sec. Si ces choses sont aussi évidentes dans le monde naturel. Vous savez, parfois, dans la journée, on a soif. Alors, quand tu as soif, tu as besoin d'un verre d'eau. Donc, si on te donne un verre d'eau, qu'est-ce que tu vas faire avec ce verre d'eau? Tu vas le boire. Et il y a beaucoup de chrétiens qui disent, ils ont le verre d'eau dans la main, ils disent à Dieu, donne-moi à boire, remplis-moi. Alors que le verre d'eau, tu l'as dans ta main. Bois toi-même. Amen. Nous avons cette capacité dans le nom de Jésus. Nous sommes des êtres spirituels recréés en Jésus-Christ, à l'image de Dieu, et nous avons la capacité de pouvoir capter, de pouvoir toucher, de pouvoir recevoir toutes choses qui nous ont été données et d'en bénéficier. Si ça t'a déjà été donné, tu n'as pas besoin de le demander une deuxième fois, ni une troisième fois. Amen. Dieu n'est pas un homme pour mentir et te dire « je t'ai donné la vie » et toi tu cherches partout et tu ne trouves pas. Ça, c'est ce qu'on trouve dans le monde. Mais en Dieu, les choses sont véritables, elles sont vraies. Si Dieu te dit, je t'ai donné la vie, je t'ai donné le Saint-Esprit, je t'ai fait naître de nouveau, ça veut dire qu'il l'a vraiment fait, il l'a vraiment donné. Donc, bois à la source qui est déjà ouverte et sois rempli au nom de Jésus, sois rempli de sa vie abondante. Donc, pas besoin de demander à Dieu de te rendre la vie parce qu'il te l'a déjà rendue en Jésus-Christ. Ensuite, il y a tout au long de la suite de ce passage un problème que cet homme a avec d'autres personnes. Il est quelqu'un qui veut marcher avec Dieu dans la justice et à droite et à gauche se lève un certain nombre de personnes qui le persécutent et qui sont des traîtres. Certains sont des traîtres puisqu'il le dit là même que certains sont des traîtres. Que des gens ne veulent pas marcher avec Dieu. Et il dit au verset 158, « Je vois avec dégoût des traîtres qui n'observent pas ta parole. » Et ça, c'est certainement pas l'attitude que nous sommes supposés avoir. Amen. Je vous rappelle que dans l'Ancien Testament, c'était œil pour œil, dent pour dent. C'est comme ça que les choses se passaient. Dans l'Ancien Testament, Dieu voulait que son peuple soit complètement séparé et coupé de tous les ennemis. Au travers de la loi, Dieu montrait à son peuple qu'ils ne peuvent en aucun cas s'approcher des pécheurs, qu'ils ne peuvent en aucun cas ouvrir la porte aux pécheurs pour la bonne et simple raison que s'ils le font, s'ils le faisaient du moins, eh bien ces pécheurs allaient les entraîner dans leur péché. Ça, c'est la raison. Parce que ces gens-là n'étaient pas nés de nouveau. Et quand quelqu'un n'est pas né de nouveau, il sera de toute façon toujours porté au mal. Parce qu'il n'a pas la nature de Dieu en lui. Et c'est pour ça qu'il y avait cette position des gens qui voulaient marcher avec Dieu par rapport aux païens, par rapport aux pécheurs. Mais aujourd'hui, les choses ont changé. Amen. Si tu commences à avoir du dégoût pour les gens du monde, tu ne manifestes pas l'amour de Jésus. Et ces gens vont rester dans leur péché. Nous n'avons pas à avoir de dégoût pour qui que ce soit. Ça, ce n'est pas juste et ce n'est pas correct. On peut avoir du dégoût pour ce que font certaines personnes, mais pas pour les personnes. Parce que nous sommes aujourd'hui dans ce monde pour, au travers de nos vies, au travers de nos témoignages, faire couler et manifester l'amour de Dieu, appeler les pécheurs à la repentance. Et quand on dit appeler les pécheurs à la repentance, la seule chose qui peut amener la repentance, c'est la conviction. Et la conviction, elle ne vient pas quand on est en train de pointer les gens du doigt. Qui sommes-nous d'ailleurs pour pointer qui que ce soit du doigt ? Amen. Mais pour témoigner de l'amour du Seigneur et pour permettre à la puissance de Dieu de toucher les hommes, parfois même les pires. Les pires des hommes peuvent être touchés par l'amour de Dieu et être changés. Je vais vous donner un témoignage qui n'est pas le mien, bien sûr. C'est quelqu'un qui a vécu ces choses. Il y avait une grande réunion d'évangélisation aux États-Unis dans un immense bâtiment et la réunion suivait son cours et il y a une femme qui passait dans la rue, elle est passée près de la porte et il y avait une telle onction, une telle présence de Dieu que cette femme, alors qu'elle était en train de passer comme elle marchait dans la rue et cette femme n'était pas convertie, mais alors pas du tout. C'était vraiment une femme qui vivait dans le péché et qui était remplie de haine et d'amertume. Et elle a été saisie. Elle a été saisie par la présence de Dieu alors qu'elle était en train de passer devant la porte sans même savoir ce qui se passait à l'intérieur parce que ça ne l'intéressait pas de toute façon. Elle s'est retrouvée par terre et cette femme, elle était ivre. Elle a commencé à crier, à insulter Dieu, à dire beaucoup de choses, des choses que je ne connais pas d'ailleurs et que je n'ai même pas envie de connaître. Et elle était par terre, elle ne pouvait plus bouger du sol. Et l'amour de Dieu est venu la couvrir. Instantanément, elle a été délivrée de son ivresse parce qu'elle était ivre. Elle a été entièrement délivrée, elle s'est retrouvée sobre en une fraction de seconde et l'amour de Dieu était tellement fort sur sa vie qu'elle est née de nouveau là même par terre sans que personne ait lui prêché quoi que ce soit. Elle avait cette conviction, elle a crié à Dieu et au moment où elle s'est relevée, elle était baptisée du Saint-Esprit. C'est l'amour de Dieu qui saisit la vie des pécheurs. Dites à un pécheur, t'es un pécheur. Il va te dire, je le sais, et alors ? Ou alors il va se mettre en colère et c'est pas pour ça qu'il va se tourner vers Dieu. Ça ne veut pas dire qu'on doit tolérer le péché dans l'Église parce que ça c'est une autre histoire. C'est une autre histoire. Là je suis en train de vous parler des gens de ce monde. Je ne suis pas en train de vous parler de l'Église. Parce que l'Église se doit de marcher dans la vérité. L'Église se doit de marcher dans l'honnêteté, dans la sincérité, dans la justice et dans la droiture. Et l'Église se doit de se débarrasser du péché, sinon elle ne pourra pas servir le Seigneur, jamais. Elle pourra prétendre servir le Seigneur, mais ça sera seulement une image. Et au fond et à l'intérieur, il n'y aura rien et on ne verra rien de particulier. Amen. Amen. Vous savez, à la maison, on regarde les chaînes de télévision chrétiennes. Et vraiment, pour moi, c'est très instructif parce que je peux rester, regarder quelques instants une chaîne, quelques instants une chaîne, quelques instants une chaîne, parce que c'est intéressant de voir d'autres personnes exercer le ministère, non pas parce qu'on veut les copier, parce que ce n'est même pas le cas de toute façon, mais on voit que certains dégagent quelque chose qui vient de Dieu. Alors que d'autres, ils sont juste en train de crier. On voit les gens de l'église qui sont en train de se rouler par terre. Et on voit les gens de leur groupe de louanges qui sont en train de crier ou de chanter. Et même parfois de très bien chanter. Et il n'y a rien. Mais il n'y a strictement rien. Rien du tout. Ce n'est que de l'apparence. Et quelque part, ça fait honte. Ça fait honte parce qu'il y a des problèmes qui sont là et des mauvaises choses qui ne sont pas réglées. Alors qu'on voit d'autres ministères. Ils ne sont pas forcément en train de crier, mais il y a la gloire de Dieu qui couvre leur église. Il y a vraiment dans le cœur des gens quelque chose de profond. Et c'est là où nous devons vivre. Amen. Mais pour ce qui concerne le pécheur, nous sommes appelés non pas à les rejeter, nous sommes appelés non pas à les critiquer, mais nous sommes appelés à leur témoigner l'amour de Dieu, afin qu'ils puissent venir à Christ et afin qu'ils puissent connaître la parole de Dieu et qu'aussi au travers de cette parole, ils soient également changés. Amen. Passez une bonne journée. Que le Seigneur vous bénisse.
Nous espérons que vous avez été bénis par ce message. Chaque année, le ministère Enseigne-moi a un impact considérable dans la vie de dizaines de milliers de personnes. Avec votre aide, nous continuerons à diffuser la parole de Dieu partout dans le monde. dès aujourd'hui? Devenez vous aussi partenaire du ministère Enseigne-moi en vous connectant sur le site www.association-enseignemoi.org. www.association-enseignemoi.org.